Polysécur, épisode spécial. Je suis accompagné de Mathilde.
Bonjour à tous. Bonjour Nicolas.
Ça va bien?
Ça va bien et toi?
Très bien aussi. Aujourd'hui, tu vas nous parler essentiellement des incidents de confidentialité ou essentiellement le fait qu'on brise les lois de protection des renseignements personnels. Donc, je vais te laisser amorcer là-dessus. Puis de toute façon, là, on va découler par la suite parce qu'il y a beaucoup de choses, j'ai l'impression, à discuter.
Oh oui, il y a un gros, gros sujet dont on parle ici et ça me tenait à cœur d'en parler en fait à travers ton podcast parce que pour moi, c'est une des raisons majeures pourquoi la loi 25 est aussi arrivée sur la table suite aux événements qu'on a pu connaître au Québec et au Canada. Juste pour resituer, en fait, un incident de confidentialité, ça va être... tout incident qui va porter atteinte à tout incident de sécurité en soi qui va porter atteinte à des renseignements personnels. Pour moi, j'y vois même aller encore un peu plus loin parce que c'est pas forcément un incident de sécurité technique qui pourrait causer ce type d'incident. On pourra avoir des infractions pas de sécurité mais plus de conformité qui pourraient causer des incidents. En tout cas, maintenant au Québec, on a des exigences qui sont rentrées en vigueur cette année, en septembre 2022, pour justement obliger les entreprises, les organisations à mieux maîtriser ce type de situation, reporter aux autorités de contrôle, donc à la Commission d'accès à l'information. C'est des exigences qui, en soi, existaient déjà au Canada, qu'on retrouve aussi dans le cadre d'autres législations. Donc je dirais que c'est une tendance internationale, on suit une tendance internationale. Mais en tout cas, c'est à peu près le contexte que je dirais autour de ce sujet qui est anxiogène quand on en parle, mais qui est essentiel à discuter.
Oui, absolument. De toute façon, puis au Québec, on l'aborde, c'est nouveau pour nous. En France ou en Europe en général, c'est avec le RGPD, ça avait déjà une certaine historique qui précède justement dans ces éléments-là, où ça il commence à avoir une meilleure compréhension des entreprises puis des éléments comme ça. Puis c'est intéressant parce que les instants de confidentialité, c'est très vaste dans sa portée. Puis je pense que les gens ne comprennent pas jusqu'à quel point ça peut l'être. Juste envoyer un courriel à un mauvais destinataire est un incident de confidentialité. Donc, représente des impacts et une gestion qui est associée. C'est pas juste les incidents techniques de rançon logiciel ou de fuite de cette nature-là, mais c'est vraiment un très large spectre de
exactement. Je suis complètement d'accord. Et puis, on pense pas forcément à toutes ces petites erreurs humaines qui pourraient arriver, qui pourraient avoir un impact. Alors après, l'impact il peut être plus ou moins élevé, et c'est ce que relève la loi aussi, parce qu'on parle de... j'ai pas envie de me tromper du terme, je crois qu'on parle de préjudice sérieux au Québec. Il y a d'autres termes au Canada, en Colombie-Britannique ou en Europe, donc mais l'idée est la même. En fonction des impacts, les conséquences ne sont pas nécessairement les mêmes, les règles ne sont pas nécessairement les mêmes, mais pour avoir consulté quelques statistiques par le passé, on peut voir que 90% des incidents de sécurité, d'abord, ça vient d'une erreur humaine. Et c'est pas forcément intentionnel. On peut perdre son téléphone lors d'un voyage, l'avoir oublié dans le taxi. Ça constitue un incident. Le téléphone, il contient des renseignements personnels. Ça va bien au-delà des contacts professionnels qui sont pas considérés comme des renseignements personnels au Québec. Mais c'est ça. En tout cas, il y a tout un spectre à considérer qui est considérable. Donc.
Oui, et c'est d'ailleurs le fait que c'est très anxiogène parce que justement, la portée, elle est tellement vaste que j'ai l'impression que les gens n'ont pas pleinement encore saisi la portée de ces éléments-là. Et les impacts, c'est ça le côté, c'est que ces instants-là, puis là, il y a des niveaux de gravité, comme tu mentionnais. Ça, si j'envoie un courriel avec une information de faible intensité, l'incident n'est pas de même magnitude, de même portée que si on a la liste de tous les clients, par exemple, dans lesquels on a envoyé par erreur un mauvais destinataire, où là, il y a des impacts puis des choses plus importantes. Puis c'est justement glisser sur le volet des impacts, parce que c'est ça aussi qui est important de choses, puis qui est le volet qui est peut-être méconnu, ou en tout cas où on a brandi de façon large le fait qu'il y a des pénalités financières, mais il n'y a pas que ça. Et celle-ci s'applique dans certains contextes aussi qui sont très spécifiques.
Oui, c'est ça. Quand on parle d'impact, en fait, on va souvent penser aux nouvelles sanctions qui sont apportées par la nouvelle loi. Au Québec, précédemment, on n'avait pas nécessairement de législation qui avait du mordant et qui pouvait faire peur aux entreprises. Maintenant, on parle de sanctions en fonction de l'impact et si ça devient criminel, qui a un impact criminel et que ça va au pénal, on parle de 25 millions de dollars ou 5% du chiffre d'affaires, si je me trompe pas. Le plus élevé étant retenu. Donc c'est un impact important, mais en fait, c'est pas le seul, parce que le jour où vous serez sanctionné de ce niveau-là, c'est que vous êtes une entreprise avec une taille conséquente, avec une violation qui est très très importante quand même. Donc il faut mesurer quand même ça. C'est vraiment le maximum. Et il y a des choses qui rentrent en compte dans l'évaluation, j'ose imaginer. En tout cas, ça a été le cas en Europe. Mais il y a d'autres impacts en fait, et même sur le plan financier, il y a d'autres impacts. Le fait qu'une entreprise fasse face à une violation, un incident de confidentialité, ça peut avoir des impacts. Rien que la remise en situation de l'entreprise après une violation, ça a un coût considérable. Si on regarde un peu les chiffres, en 2 ans, le coût d'une violation de données, ça a augmenté de 12,7% dans le monde. En fait, c'est une statistique mondiale, mais on parle de 4,3 milliards de dollars américains en coût moyen de ce que représente une violation. Et c'est pas seulement vis-à-vis de la sanction financière qui existe sur le plan légal. On peut avoir des pertes de clients aussi parce que le client ne va plus avoir confiance en notre entreprise. Il va y avoir un impact réputationnel qui peut être énorme avec la publicité qui va être faite, des communications qui vont être faites sur les réseaux sociaux, sur les journaux locaux ou mondiaux. Puis moi, j'aime bien prendre l'exemple en fait de l'événement qui s'était passé avec Facebook et Cambridge Analytica à l'époque, donc ça fait quand même quelques années maintenant, mais je trouve que c'est l'exemple parfait de ce qui peut arriver pour les entreprises quand il y a un incident de sécurité, une violation de données. Donc à l'époque, il y avait eu un incident qui s'était passé avec l'utilisation inappropriée de données et puis des échanges entre Facebook et Cambridge Analytica. Le jour où l'incident il a été révélé au grand jour, on a Facebook d'un côté qui a certes perdu de la valeur au niveau de ses actions, mais qui a pu récupérer ses pertes en quelques mois, si je ne me trompe pas. Le dommage majeur pour eux, c'est un impact réputationnel. On retrouve des informations sur Netflix. Il y a un documentaire, The Great Hack, qui est très intéressant. C'est un exemple d'impact réputationnel. Enfin, moi, maintenant, quand je pense à Facebook, je pense aussi à ce type d'incident. Puis à côté, on a Cambridge Analytica, qui était une petite start-up. Et je dis « était » parce qu'en 2 mois, ils ont dû fermer l'entreprise et même l'entité mère a dû fermer parce qu'ils n'avaient pas les moyens de continuer leur activité, parce que leur cœur d'activité, c'était traiter les données à travers des informations collectées à travers Facebook. Et donc, leur business ne pouvait plus fonctionner. Donc ça, c'est un exemple de ce qui pourrait arriver. En fonction de la taille de l'entreprise, du contexte de l'activité de l'entreprise, les conséquences peuvent être complètement différentes. Donc, ce n'est pas négligeable.
Oui, puis cet exemple-là est intéressant parce que c'est et justement le cœur même de ce que les lois cherchent à protéger, de cet usage intempestif des informations personnelles sans autorisation explicite ou avec consentement éclairé. Donc, dans ce cas-ci, c'est un cas clair, puis ça l'a mené à la perte de cette entreprise-là. Probablement que d'autres entreprises de même nature devront se poser de sérieuses questions. Là, moi, il me vient en tête Clearview AI, par exemple.
Exactement.
Devra se poser sur le modèle d'affaires est basé sur une contradiction à nos lois qui sont en train de devenir en vigueur un peu partout dans le monde. Puis même les Américains sont en train de regarder des lois similaires à ça, là, au point de vue fédéral. Donc, quand même, il y a un changement de cap intéressant. En tout cas, comme consommateur, je trouve ça bien que mes informations soient mieux protégées, justement. Mais les impacts sont très vastes. De toute façon, l'Europe, jusqu'à présent, a une belle expérience où on peut voir quels sont les impacts. Le Cambridge Analytica, mais il y a eu quand même d'autres cas où la CNIL en France a sévi justement sur des entreprises qui étaient non conformes et tout ce que ça avait.
Ça. Ben il y a une application intéressante, je crois que c'est GDPR Tracker, quelque chose comme ça. Je sais plus le nom exact, ou GDPR Enforcement, où on peut retrouver toute la liste des sanctions qu'il y a pu y avoir depuis 2018, l'entrée en application du RGPD. Et en fait, on voit que dans le tableau qui est présenté, on voit les pays et puis on voit aussi la raison de la sanction. En fait, c'est toutes les sanctions qui ont pu être prononcées depuis l'entrée en application. Et la quasi-majorité du temps, on a quand même la raison de la sanction, c'est les mesures de sécurité qui ne sont pas bien mises en place. Donc, c'est malheureusement quelque chose qu'on peut constater aujourd'hui. On peut imaginer que ce n'est pas le cas qu'en Europe et que ça peut être le cas au Canada, même au Québec. Il faut le considérer, tout ça.
C'est ça, ça va faire partie du spectre des choses qu'on va affronter. Au niveau des exigences légales, est-ce qu'il y a des particularités justement qu'on doit tenir en compte justement pour se conformer, ne pas tomber en non-conformité à la loi ou en infraction à la loi?
Alors, pour la loi 25, ce qui a été nouveau, c'est qu'ils ont apporté une exigence de reporter à la commission d'accès à l'information et aux personnes concernées les incidents de confidentialité qui présentent donc un préjudice grave pour les individus. Et une autre exigence, c'est d'avoir un registre des incidents de confidentialité qui puisse être mis à disposition de la CAI sur demande. Ça, c'est les exigences. La loi, elle est très légère, en fait, sur ce qu'elle exige, mais en même temps, c'est énorme ce qui est demandé. Si on le prend sur le plan pratique, surtout qu'on n'a pas nécessairement beaucoup de détails sur ce qui est attendu de nous quand on va faire face à un incident. Qu'est-ce qu'on récolte comme information? Quelles sont les informations qu'on va livrer à la commission d'accès à l'information? Qu'est-ce qu'on doit dire aux personnes concernées? Puis déjà, qu'est-ce que c'est qu'un préjudice grave ou sérieux? Ça, c'est aussi tout un... ça reste subjectif, ça reste très vague aussi dans ce qui est demandé. Donc c'est sûr, il faut se préparer à tout ça. Heureusement, la commission d'accès à l'information, il y a quelques jours, je regardais le site internet pour aller chercher quelques informations et je suis tombée sur la page liée aux incidents de confidentialité et je me suis aperçue qu'ils avaient mis en place depuis septembre 2022, ils avaient mis à jour leur site internet et ils fournissaient un formulaire de report d'incident de confidentialité. Donc, on sait maintenant exactement ce qu'on doit reporter à la commission d'accès à l'information. Il y a aussi des recommandations par rapport à quelles informations on devrait donner aux personnes concernées. Globalement, ça reste quand même des informations qui sont assez logiques. Et puis, j'invite les personnes qui écoutent le podcast à aller consulter le site internet de la commission d'accès à l'information. Mais globalement, on va s'intéresser à quel est le contexte. Et puis, c'est des informations qu'on va retrouver aussi dans le registre. On va s'intéresser au contexte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été la cause de l'incident? Quels sont les renseignements personnels qui ont été collectées, impactées. Quelles sont les personnes qui ont été concernées par l'incident, affectées par l'incident, en termes de nombre et leur profil. On va aussi avoir des informations sur le préjudice, donc comment a été évalué le préjudice par l'entreprise. Donc ça, on peut en rediscuter plus longuement. Et puis, s'il y a une communication qui a été faite aux personnes, bah, quelles sont les informations qui ont été communiquées. En termes d'informations aux personnes, on s'attend en principe à ce que la personne soit informée des conséquences de l'incident. Qu'est-ce que ça représente pour elle? Quels sont les impacts que ça représente pour elle? Et quelles ont été les mesures qui ont été mises en place par l'entreprise ou qui vont être mises en place par l'entreprise pour mieux protéger. Puis un autre élément qui devrait être inclus lorsque on fait une communication aux personnes, c'est de mettre un contact, une personne contact qui pourrait être bah, contactée si jamais la personne affectée a d'autres questions, a besoin d'autres informations. Donc ça, c'est des éléments qui pourraient être mis dans la communication. Donc c'est à peu près ça, je dirais, les éléments majeurs à considérer quand on documente et qu'on prépare la communication à la commission d'accès à l'information. Mais c'est ça. J'espère que j'ai été claire, en fait, parce que j'ai l'impression que j'en ai mis beaucoup d'un seul coup.
Si d'exigences par rapport à l'autre, ça, mais dans le fond, ça t'a permis de glisser vers aussi tous les éléments préparatoires, tout ce qui encadre ça, et qu'est-ce qu'on doit faire avant et comment on doit gérer cette situation-là. Fait que c'est une très belle transition.
Bah, parfait. Je peux donner l'exemple de ce que nous, on a fait chez Hitachi System Security. En fait, déjà, la première chose à faire, c'est qu'on a mis en place une procédure. Donc, on a déterminé tout le processus en commençant par de quelle manière on va identifier l'incident de sécurité et l'incident de confidentialité. Donc, en principe, on a travaillé avec l'équipe de sécurité et le responsable de la sécurité pour déterminer un peu le chemin pour que quand il y a un incident de sécurité, on a préparé une checklist pour identifier si pendant l'incident de sécurité, il y a des renseignements personnels qui ont été impactés. La checklist, elle est très simple, c'est la liste de types de renseignements personnels qui pourraient être considérés. Et donc, à partir du moment où il y a une ou plusieurs cases de cocher, on doit remplir un formulaire de rapport d'incident de confidentialité, parce que ça devient un incident de confidentialité, qui doit être transmis au responsable de la protection des renseignements personnels. Et donc, ce formulaire, il inclut toutes les informations déjà de contexte. Qu'est-ce qui s'est passé, quel est l'incident, quand c'est que ça s'est passé, les dates, etc. On a qui a été affecté, le nombre de personnes, la localisation aussi des individus. Parce que là, jusqu'à présent, on parlait vraiment de la loi 25. Ça veut dire qu'on se concentre sur le Québec. Mais nous, par exemple, chez Hitachi System Security, on a aussi tout le Canada à considérer. Puis, on a des activités dans le monde. Donc, on a considéré la localisation de la personne parce que ça va affecter à quelle autorité de contrôle on doit reporter et la loi qui s'applique. Et donc, après, on a considéré les mesures qui ont été prises. Donc, on doit m'informer, en fait, de quelles sont les mesures qui ont été déjà prises et qu'est-ce qu'on me propose comme mesure en plus. Puis après, moi, quand je reçois ce rapport, je vais remplir les autres parties du formulaire que j'ai déjà inclus dedans, où en fait, il y a l'identification de est-ce qu'on agit en tant que responsable de traitement ou sous-traitant. Parce que ici, ça va aussi impacter quel est notre rôle et qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit informer nos clients en premier lieu pour gérer l'incident ou est-ce que c'est vraiment un incident qui est interne et qu'on doit gérer. Puis après, on a tous les aspects de notification à l'autorité de contrôle et tout l'aspect de communication aux personnes concernées. Et donc là, on identifie l'autorité de contrôle, on identifie si oui ou non on a fait une notification, parce que c'est pas obligatoire à tous les coups. Je ne l'ai pas mentionné, mais il y a aussi le risque de préjudice sérieux qu'on doit identifier. Donc, on identifie quel type de risque l'incident pourrait causer aux personnes. Donc, ça aussi, ça fait partie de la première partie. Moi, je fais aussi une évaluation de tout ça. Et puis, je détermine si on doit faire le rapport aux autorités de contrôle, quelles informations je transmets. Et puis, si on fait une communication aux personnes concernées, j'ai comme une liste d'informations qu'on devrait inclure dans la communication. Et je dois justifier aussi si oui ou non on a fait une communication. Et ce document, en fait, ce formulaire qui est rempli au fur et à mesure, on le met à jour au fur et à mesure avec l'équipe qui gère l'incident. Et c'est en fait notre document qui va servir de registre et de documentation interne. Et donc, si la commission d'accès à l'information vient nous demander notre registre, on peut ressortir tous les formulaires, s'il y en a, sur les dernières années, des incidents.
Je trouve ça super, super intéressant, la stratégie que vous avez prise pour avoir à gérer plusieurs crises d'un point de vue technique. J'avais pas l'autre côté. C'est un aide gigantesque d'avoir ce genre de formulaire-là qui arrive en amont. Puis au niveau de la gestion, c'est peut-être que les gens ne voient pas, c'est parce que là, on parle instant de confidentialité, mais souvent, le volet technique est très présent. Et si on n'est pas encadré correctement au bon moment, on va faire des impairs. Et là, je parle de mon expérience pré-loi 25, dans laquelle on n'avait pas d'obligation de cette nature-là. Donc, on avait un peu plus de liberté, si on veut, comme ça. Et où il est arrivé dans certains incidents que j'ai eu à gérer, où on a l'incident technique qui a causé des erreurs, des problèmes ou des incidents qui se sont transformés après en des, ce qu'on, maintenant on appelle les incidents de confidentialité. À l'époque, on appelait ça différemment, mais qui a glissé de cette nature-là parce qu'on n'avait pas la bonne information en main, parce qu'on n'avait pas les bons formulaires, puis on n'avait pas les guides pour nous amener à prendre une décision claire. Sur ça, puis ça l'a amplifié des choses. Puis si on était maintenant post-loi 25, on serait vraiment dans le trouble par rapport à ce qu'il y a. Puis on aurait vraiment une réduction de compte très, très importante à faire à la caille parce que les incidents n'ont pas été gérés selon les meilleures pratiques qu'on considère maintenant. Donc, ces formulaires-là, puis je pense qu'ils sont la clé pour les organisations qui veulent se doter d'un plan de gestion de crise complet. Cette volet-là doit en faire partie puis va sauver du trouble aux équipes techniques qui doivent remettre les systèmes en place.
Bah c'est un guide parce que même le jour où le responsable de la protection des renseignements personnels n'est pas là, pour moi, ce document, il est quand même assez lisible, ce qu'on a mis à l'interne, pour que quelqu'un d'autre, qui a quand même un minimum de connaissances, mais par exemple, pour moi, la personne en conformité dans l'entreprise pourrait reprendre ce formulaire et regarder et puis remplir et cocher les cases de manière assez facile. C'est assez intuitif puis ça permet de ne pas oublier les éléments qui doivent être pris en compte. Puis quand il y a un incident de confidentialité, on a besoin de documenter tout ce qu'on fait, de justifier pourquoi on a fait ci, pourquoi on n'a pas fait ça. Donc pour moi, je trouve que c'est un bon guide. Après, l'important, c'est aussi de faire comprendre comment ça fonctionne. Donc, le but aussi, c'est que les gens sachent qu'il y a ce processus en place. Donc, après, on peut avoir une politique. Nous, on a une directive à côté de ce formulaire qui explique comment ça fonctionne et puis le chemin de tout ce processus. Donc, ça supporte aussi cet élément, mais je pense que ça permet de réunir un peu tous les besoins. Puis là, on parlait vraiment, enfin, ça répond aussi surtout aux exigences légales et organisationnelles. Mais comme tu le disais, il y a tout l'aspect technique qui se passe derrière la gestion d'un incident de confidentialité. C'est pour ça qu'on inclut quelles sont les mesures qui ont été mises en place pour limiter le risque. Mais aussi, grâce à ce formulaire, on peut préparer le plan d'action de post-incident et faire aussi un suivi de qu'est-ce qu'on va faire par la suite pour s'assurer que ce type d'incident ne se passe plus. Et donc, on va lister les mesures qu'on va mettre en place. Donc, par exemple, la formation des employés pour leur rappeler quelles sont les mesures à mettre en place et à prendre en considération, mais aussi toutes les mesures techniques vont apparaître Puis tu mentionnais quels étaient les impacts que toi, tu as pu avoir par rapport, en tout cas, que tu as pu témoigner pendant un incident qui s'était passé avant la loi 25. Moi, j'ai un exemple aussi de ce qui a pu se passer, mais plutôt sur le côté européen. C'était une entité en Europe qui a été impactée par un incident sur un système de comptabilité qui était hébergé chez un hébergeur qui a subi une attaque, donc une cyberattaque, avec indisponibilité des systèmes d'information. Et donc, le système qu'ils utilisaient, la compagnie, ils ne pouvaient plus l'utiliser. Et dedans, c'est un système de comptabilité. Il y a beaucoup de renseignements personnels dedans qui peuvent même être considérés comme sensibles. Donc, le contexte était très sensible. Mais derrière, on avait de la difficulté à gérer tout ça parce que c'est le sous-traitant du sous-traitant qui a subi la violation. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ça, c'est aussi des choses... parce que là, quand on en parle, ça a l'air finalement simple. On a notre formulaire, on va faire nos petites choses. Puis en fait, dans la réalité, le formulaire, il aide. Mais chaque violation, chaque incident a son propre contexte. Et quand il y a un incident qui nous impacte, par exemple, mais que ça se passe chez un sous-traitant, qu'est-ce qu'on fait? Et ça fait partie, justement, quand je discutais avec cette organisation, on se disait, mais qu'est-ce qu'on fait? Et là, on se posait la question, est-ce qu'il y a eu une vérification déjà du sous-traitant qui a été utilisé? Le prestataire qui est utilisé, est-ce que vous avez vérifié si il avait des mesures de sécurité en place qui répondent à vos besoins? Sécurité technique, sécurité protection des données, etc. Tout le spectre.
Mais c'est ce qu'amène la loi, parce qu'en Europe, on l'a maintenant que le RGPD, que les années, ils sont plus au fait. Mais tout le traitement de l'information, qu'il soit fait à l'intérieur ou à l'extérieur de l'organisation, il y a quand même une chaîne de responsabilité qui est là, qui est encadrée davantage par la loi maintenant. Donc, oui. On peut plus juste dire que c'est pas notre problème parce que ça devient notre problème, puis ça devient un problème. Puis même, il y a des aspects, on parlait de crise, mais même dans les façons de faire des organisations, il y a des changements importants à faire. Donc, par exemple, on a beaucoup d'informations dans des bases de données, dont de l'information personnelle, et maintenant, on ne peut plus y accéder comme on veut. Puis si on parle des gens techniques, on parle de ceux qui administrent ces systèmes ou qui les développent, ne peuvent plus les jouer dans les banques de données comme ils allaient jouer avant, parce que ça dépasse le cadre dans lequel les informations ont été soumises à l'organisation. Donc, il y a des réflexions, puis les ramifications sont très importantes, puis je pense qu'on ne voit que pour le moment le point de l'iceberg là, par rapport à ça. Là.
Oui, tout à fait, parce que quand on est plongé dans ces types de situations, on se rend compte de tous les petits aspects qui rentrent en jeu. Rien que gérer un incident de sécurité, un incident de confidentialité, là, ça paraît facile, comme on l'a dit, mais en réalité, ça prend un temps fou de collecter les informations, rien que de contexte, parce que des fois, c'est pas évident de savoir ce qui s'est passé. Parfois, c'est un incident qui a duré pendant des mois et dont on s'aperçoit que 3-4 mois après, puis 3-4 mois après, qu'est-ce qu'on fait? Puis le temps de comprendre l'impact, on se dit, peut-être ça s'est passé hier, puis en fait, on s'aperçoit au fur et à mesure que c'est beaucoup plus conséquent. Et donc, au fur et à mesure qu'on va chercher l'information, ça peut prendre beaucoup de temps, le temps de gérer tout ça.
Oui, ça devient très
compliqué. C'est tout un processus.
Très complet. J'en ai eu des incidents où on a juste soulevé, on a tiré l'incident, on l'a vu. Puis quand on a commencé à tirer dessus, on a fait mais il va plus loin. Et le temps de décortiquer, de reconstruire, parce que reconstruire un incident qui s'est passé dans un court délai de temps, c'est très facile. Quand on doit reconstruire un événement avec beaucoup d'informations généralement imparfaites, et c'est là dans les mesures, parce que la loi exige quand même des mesures puis des éléments comme ça. Si la journalisation est insuffisante, on va se faire reprocher parce qu'il faut être capable de remonter et reconstruire l'incident pour présenter justement quelles informations ont été affectées par ce genre de d'incident-là qui est ça. Mais ça, oui, il y a des ramifications sur les choses en préparation de point de vue technique. Il y en a beaucoup qui, à l'heure actuelle, sont largement insuffisantes pour aider les équipes à reconstruire s'il y a lieu par la suite.
C'est ça. Puis, il y a plein de mesures qui peuvent prévenir toutes ces situations. Parce qu'il y a des incidents, en fait, qui sont causés parce qu'on a une mauvaise gestion des durées de conservation, mauvaise gestion des sauvegardes, mauvaise gestion des accès, mauvaise gestion de... il y a tellement de choses qui pourraient causer et rendre l'incident plus grave, les impacts plus graves, le nombre de personnes augmente, le nombre de personnes affectées va augmenter en fonction des mesures qui sont mises en place. Et donc, c'est pour ça que là, on a beaucoup parlé de comment se préparer à ce type d'événement, peut-être préparer un formulaire, une procédure, identifier les personnes qui peuvent être engagées dans ce processus, comment déterminer le préjudice sérieux, qui est ça, c'est une évaluation où on tient compte de la sensibilité des renseignements et quels sont les impacts possibles pour les personnes. Mais avant même ça, si on veut limiter ce risque d'événement, qui aujourd'hui, le risque zéro n'existe pas. Il faut que toute entreprise s'attende à ce qu'il y ait ce type d'événement qui arrive chez elle. Mais après, si on met des mesures préalables, bah, le préjudice sérieux, finalement, il n'existera pas parce qu'on a les bonnes mesures en place, en amont. Ça, après, il faut savoir quelles mesures mettre en place. Il faut aussi obtenir le budget pour pouvoir le faire. Ça, c'est aussi toute une question.
Il y a énormément d'aspects de ce côté-là. On va glisser vers aussi la gestion d'un dit incident, puisque là, on a parlé de la préparation. Les conséquences réel quand on a à gérer cet incident-là, parce qu'on en a parlé un peu à travers tes formulaires, qui est la structuration, mais un cas plus, peut-être plus tangible de gestion qui nous amène à devoir trouver ça moins drôle.
Tu voudrais un exemple d'incident qui pourrait arriver?
Ce qui pourrait montrer aussi comment on met en œuvre, parce que là, c'est bien de parler des formulaires et les jugements comme ça, mais avoir les mains dans le cambouis, justement, c'est plutôt autre chose.
Alors, j'essaie de trouver un exemple parce que je parlais de l'exemple du sous-traitant, là, où en fait, quand il y a eu cette situation, quand on a géré cette situation avec l'entité, bah, finalement, nous, qu'on a fait, en fait, on avait été contacté pour gérer cette situation en nous disant bah, qu'est-ce qu'on fait. Puis on n'avait pas d'informations particulières, on savait juste que l'événement avait causé l'impossibilité d'utiliser l'outil. Il y avait des communications faites par les deux entreprises, donc le sous-traitant et le sous-sous-traitant. Après, bah, qu'est-ce qu'on fait? Puis contacter l'entreprise qui a 500 000 clients, peut-être, j'en sais rien. c'est pas forcément facile pour une petite entité d'aller chercher des informations. Donc, heureusement, cette entité faisait une bonne communication sur Internet, a publié de l'information, idem pour l'hébergeur. Donc, c'était possible de retrouver les informations du contexte et de ce qui se passait. En tout cas, un minimum. Par contre, ils affirmaient qu'il n'y avait pas de renseignements personnels impactés, donc pas de violation, pas de données confidentielles qui avaient été impactées. Donc, à quel point est-ce qu'on veut être... est-ce qu'on va faire confiance à l'entité qui déclare ça? Donc, nous, ce qu'on a proposé, c'est déjà de faire une vérification sur le dark web. Donc, on a travaillé avec le groupe de cyberintelligence au sein de l'entreprise. On a proposé ça à l'organisation pour aller chercher ce qui se passait sur le dark web et même sur Internet tout court, voir s'il y avait des renseignements personnels ou des informations juste sur l'organisation qui avait été publiée récemment. Mais on n'a rien trouvé de particulier. Donc, là, on s'est dit, OK, c'est peut-être pas un incident de confidentialité. Puis après, on s'est posé la question, mais est-ce qu'il y a eu une vérification déjà de ce sous-traitant? Est-ce que vous avez fait un processus de diligence raisonnable quand vous avez sélectionné ce sous-traitant? Ils nous ont dit non, on n'a pas le temps de faire ça. Puis comment on va récupérer des informations d'une entité? C'est impossible. En Europe, ça se passe pas comme ça. Oui, mais à un moment donné, en fait, c'est les exigences. Ils ont aussi pas le choix de montrer patte blanche et montrer qu'ils ont mis en place des mesures. C'est leur responsabilité aussi en tant que sous-traitant de pouvoir démontrer leur conformité et qu'ils peuvent répondre à vos exigences. Et vous, c'est à vous de vous assurer en tant que responsable que vous respectez bien les règles et que vous avez bien vérifié vos sous-traitants et que vous avez bien vérifié qu'il y avait des bonnes mesures en place pour vous protéger. Parce que si vous choisissez le mauvais sous-traitant, c'est de votre faute.
Oui, ben c'est ça, on engage la responsabilité parce qu'on fait des choix. Puis c'est cette ramification-là aussi qui est difficile. Puis c'est très intéressant l'axe que tu as amené justement, que tous les services que vous avez. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dans cette crise au-delà du simple fait qu'il a fallu exiger les éléments du sous-traitant?
Il y a eu une information qui a aussi été faite à l'interne, dans l'entreprise. Ce qui a été décidé, c'est de ne pas encore notifier aux autorités de contrôle parce qu'on ne savait pas s'il y avait des renseignements personnels qui étaient impactés. Et donc, le temps de faire les recherches, etc., on s'est dit, les employés qui ont été impactés potentiellement parce qu'il y avait toute la paye du personnel qui était gérée à travers l'outil, puis les clients aussi. Comment on fait pour s'assurer qu'eux, ils ne sont pas impactés? Puis déjà, on a pensé aux employés en premier parce que c'est eux les premières personnes affectées en termes de renseignements personnels, je parle. Parce que les clients sont aussi impactés, mais sur un niveau de renseignements confidentiels. Ce n'est pas forcément des données personnelles. Mais donc, pour les employés, ce que nous, on a suggéré, c'est de faire quand même une communication volontaire pour les informer que l'hébergeur de l'outil utilisé pour faire la gestion de la comptabilité et de la paie du personnel avait subi un incident de sécurité, que pour l'instant, aucune confirmation n'a été faite sur l'existence d'un incident de confidentialité, que leur renseignement personnel est impacté. Mais par contre, on leur a demandé d'être vigilants sur les potentiels courriels qu'ils pourraient recevoir à la suite, parce qu'ils pourraient en fait être victimes de phishing ou d'hameçonnage, juste parce que leurs renseignements personnels ont été mis à disposition sur Internet, sur le dark web. Donc on a voulu être vigilant et faire une communication pas trop anxiogène, mais au moins qu'ils soient prévenus que nous, on est en train de gérer la situation, mais qu'on leur demande d'être vigilants pour s'assurer qu'ils soient convenablement protégés. Et là encore, on a donné un contact au sein de l'entreprise pour qu'ils puissent poser des questions au besoin. À mes connaissances, en tout cas, ils ne nous ont pas fait remonter d'informations, l'entreprise, qu'ils avaient reçu des plaintes, peut-être des employés, etc. Donc, je pense que ça a été géré. Puis, pour l'instant, il y a un suivi qui se fait quand même sur plusieurs mois là, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'impact qui arrive dans les prochains mois. Donc, on a proposé un suivi sur 6 mois. Et puis, on attend de voir s'il y a quelque chose qui arrive. Mais c'est l'approche qu'on a proposée à cette entreprise pour pouvoir mieux les protéger.
C'est très intéressant, puis ça met justement en perspective ce que ça a comme conséquence un incident de confidentialité. Parce que dans un point de vue pur technique, on n'aurait jamais abordé les choses de cette façon-là, on n'aurait pas abordé aussi loin. Les recherches sur le dark web, entre autres, les éléments connexes qui sont importants dans ce contexte-là, c'est super intéressant, puis c'est très, très riche d'enseignements et pour aider les gens à se préparer correctement à ce qui pourrait se passer.
C'est pour ça que quand on a engagé les discussions, qu'on a été mis dans la boucle des discussions, les personnes qui faisaient partie de la discussion initiale, il y avait le responsable de l'entreprise, il y avait gestionnaire de risque, Il y avait la personne responsable des technologies d'information et de la sécurité. Et puis, il y avait la personne... nous, on les a guidés au niveau de sécurité, en plus, et de la protection des données. Donc, en fait, il y a quand même un petit groupe qui se réunit pour partager les idées et pour confronter aussi les idées et voir quel est le meilleur chemin à suivre pour pouvoir assurer une meilleure gestion de l'incident. Après, ça, c'est un incident qui est assez particulier, parce que l'information même, comment ils ont appris l'incident, c'est à travers un article de journal qui disait 50 000 entreprises impactées par l'indisponibilité des données pour un outil. Puis encore, l'hébergeur, il avait bien plus d'un client, donc ça concernait qu'un seul de ses clients. Et c'est qu'ils se sont rendus compte.
C'est malheureusement pas rare que les entreprises l'apprennent de cette façon-là, soit dans les journaux, les médias sociaux, peu importe l'avenue, mais de l'apprendre par erreur. C'est ce genre d'élément-là, puis c'est un peu troublant qu'on l'apprenne de cette façon-là.
Ça fait peur, parce qu'on se dit, mais pourquoi on ne nous a pas prévenu directement? Sauf que quand il y a trop de clients, c'est pas possible. Et en fait, tu te rends compte que quand tu vas voir sur leur site internet, la première page, c'est il y a comme une note d'information qui dit pour des informations sur l'incident, cliquez ici. Et puis en fait, on voit tout le cheminement de ce qui a été fait pendant les trois derniers jours. Là, c'était quelque chose. Ils s'en sont aperçus quand même rapidement. Donc il y avait comme un 3 jours de délai à partir du moment où l'entité avait été impactée. Malheureusement, c'est ce qui peut arriver. Et puis, là encore, on leur a proposé de remplir un formulaire qu'on a adapté pour l'entreprise pour leur dire, voilà ce que vous pouvez documenter. Donc, on a documenté avec eux. Puis comme ça, ils ont une trace si jamais ils ont à faire un rapport à une autorité de contrôle. Parce que le formulaire que nous, on a mis en place, c'est pour que ça puisse être utilisable à n'importe quelle entité aussi, à un certain point. Donc, c'est ça. C'est ce qu'on a proposé, en tout cas, pour gérer l'incident. C'est celui qui m'est venu en tête, parce que c'est un cas récent qu'on a vécu. Oui,
puis il permet de remettre justement en lumière toute la complexité associée, tout ce que ça peut représenter. Puis c'est intéressant, parce qu'un cas concret vient justement rajouter de la valeur et de l'importance à la préparation et à tout ce qu'on doit faire, parce que je pense que les gens ne mesurent pas à quel point les impacts sont importants lors d'un incident de confidentialité et les ramifications dans lesquelles on n'est pas habitué, essentiellement.
C'est ça. Une des mesures qu'on leur a recommandées, c'est vraiment de travailler sur le processus de diligence raisonnable et la vérification de leur contrat avec leurs sous-traitants, et d'exiger que leurs propres sous-traitants soient obligés de respecter nos règles aussi pour l'entreprise. Je dis nos règles, mais c'est pas nos règles. Je pense que c'est bien compris, mais respecter les règles de l'entreprise vis-à-vis de la situation. Donc, il y a tout le cheminement, comment gérer les incidents et les sous-traitants, en fait, qui pourraient être la cause première des incidents qui arrivent. Ça peut être compliqué. Et je pense qu'en fait, au Québec, il y a cette conscience avec la loi 25, parce que on nous exige au Québec de faire des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée quand il y a un transfert hors du Québec, pour s'assurer que les lois qui sont applicables dans le pays ou la province qui va héberger les renseignements respectent ces règles. Donc je pense qu'il y a quand même cette conscience au niveau du Québec. Et je me demande si ça n'a pas été une des raisons de mieux gérer ses sous-traitants aussi, d'exiger ses EFVP à chaque fois que les données sortent de la province. C'est très lourd comme processus.
C'est très contraignant. Mais je pense que la proximité qu'on a avec le marché américain est probablement une des raisons aussi qui a favorisé la mise en place de ça. Contrairement à l'Europe qui n'a pas cette proximité-là de choses, puis il y avait d'autres contextes juridiques aussi qui entouraient ces éléments. Nous, ce qu'on a, on n'a pas comme contexte juridique ici. Mais c'est à mon avis, c'est un autre facteur qui a favorisé justement l'ajout de cette évaluation-là. Le niveau des organismes publics, c'est l'article 70.1, qui est un peu agaçant, qu'on doit justement assurer puis vérifier les éléments comme ça. Puis à ce que je vois, il n'y a pas tant de gens que ça qui sont au courant de cet article-là, dans lequel cas. Puis c'est ça que tout le problème, c'est que si on le respecte pas, on fait un incident de confidentialité à ce moment-là, parce qu'on n'a pas respecté les règles.
C'est ça. Et puis, ça peut justement retomber contre l'entreprise parce que peut-être que ça ne se verra pas tout de suite, mais le jour où il y a un incident de sécurité et que, en fait, on n'a pas fait l'évaluation correcte de ces sous-traitants à travers cette évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, la faute, elle ne tombe pas sur le sous-traitant, elle va tomber sur le responsable.
Tout à fait. On a fait un très grand tour d'horizon de ce sujet-là. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas suffisamment abordées que tu aimerais qu'on aborde ou on a fait un bon tour?
Mais je pense que je dirais, si je pourrais conclure par rapport à tout ça, c'est que il faut se préparer parce que le secret, c'est la préparation pour pouvoir faire face à ces situations. Consulter ce que proposent les autorités de contrôle et puis savoir évaluer le risque et l'interpréter et surtout mettre en place les mesures, le plus de mesures possibles en fonction de la sensibilité des données et des renseignements personnels pour s'assurer que le jour où il y a un incident qui arrive, au moins les risques soient limités. Et donc, bien maîtriser, en fait, la mise en place des règles à travers la loi, en respectant les durées de conservation, en respectant la collecte, la minimisation de la collecte des renseignements personnels, en respectant la mise en place de contrats avec ses sous-traitants, en documentant ses activités aussi, ça va faciliter grandement la gestion et puis la maîtrise des risques. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir, mais là, l'expression a tout son sens quand on parle de protection des renseignements personnels. Donc, ce serait mon conseil, c'est vraiment faire attention à ce qui est déjà mis en place. C'est lourd de mettre tout ça en place, ça prend du temps, mais c'est nécessaire. Et puis, il y a des petites actions qui sont très faciles à mettre en place et qui peuvent sauver l'organisation. Donc, faut pas hésiter à y penser maintenant. Parce que pour moi, si cette exigence de notification des incidents de confidentialité a été mise en place dès la première année avec la loi 25, c'est qu'il y a une raison. C'est que c'est le plus gros risque pour les entreprises. Et c'est là où réside le risque quand on parle de protection des renseignements personnels et que c'est la priorité. Qui devrait être pour toutes les organisations. Donc, pour moi, c'est pour ça que ça doit être en place dès maintenant. Et c'est l'essence même, en fait, de la législation. Protéger les individus, puis en protégeant son entreprise avec tout ça, c'est aussi se protéger soi-même parce que on est les premières personnes qui pourraient être impactées par une violation de données au sein de l'entreprise, puisqu'on est nous-mêmes les employés de l'entreprise. Donc, ça peut conclure.
Super intéressant. Je te remercie encore pour ton temps et ta générosité parce que ces informations-là, je crois, vont bénéficier à énormément de gens.
J'espère.
Puis moi, je trouve ça toujours très intéressant d'aborder ces sujets-là.
Merci. Ça fait plaisir.
Merci.
Merci.